Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Très grand bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de votre émission littéraire, c'est en effet Wagon Livre jusqu'à midi sur Radion. Nous vous proposons aujourd'hui un entretien qui a été enregistré en public le 28 janvier dernier, en Côte d'Or précisément à la bibliothèque municipale de Semur-en-Auxois, lors du premier rendez-vous du Cercle des auteurs bourguignons, initié par Virginie Ravarotto de la bibliothèque municipale de Semur-en-Auxois et du libraire Cyril Lefebvre, qui tient la librairie de La Poste dans cette même cité médiévale. Merci aussi à notre public que je salue et remercie à l'avance. Merci cher public, et je suis très heureux d'accueillir le premier invité du Cercle des auteurs bourguignons. Bonjour Philippe Zimmermann.
Bonjour.
Alors Philippe Zimmermann, je vous présente, vous êtes l'auteur d'un huitième roman que nous allons aujourd'hui mettre en valeur et qui a pour titre « Le porteur de lanterne », paru...
Il est paru le 2 décembre 2021.
Aux éditions
donc, il y a 2 mois.
De l'Armatan. Il sent encore l'encre, l'aventure. Et on va en parler. Je vous présente rapidement Philippe Zimmermann. Vous êtes né à Toul, c'est-à-dire en Meurthe-et-Moselle, département 54. Vous avez été receveur des postes dans le Morvan, précisément à Marigny-l'Église, non loin de Carré-les-Tombes, avant de retourner dans le même emploi en Lorraine. Puis vous avez été, alors vous êtes devenu chef d'entreprise. De 1988 à 2009, vous avez ensuite changé de voie professionnelle puisque vous avez dirigé un cabinet d'assurance. Puis vous êtes parti dans le sud de la France pour créer une autre entreprise de sérigraphie et d'impression numérique. En 2000, une coupure salutaire dans votre quotidien professionnel harassant et fatigant puisque... vous partez à l'aventure, c'est-à-dire que vous allez traverser l'Atlantique sur le bateau qui était le bateau de Florence Artaud. Alors, elle n'était pas à vos côtés, mais vous avez ramené ce bateau, donc traversé de l'Atlantique, très en lien, et on comprendra mieux. Et vous aussi, auditrices et auditeurs, vous comprendrez mieux, finalement, les liens d'aventure qui se tissent quelque part entre la vie de Philippe Zimmermann et celle de ses héros dans ce huitième roman, Le porteur de lanterne. Vous êtes d'accord, Philippe ?
Tout à fait.
Donc, vous avez fait paraître un roman en 2018 qui avait pour titre Bleu, toujours à l'Armatan. Alors là, vous racontiez la vie de votre grand-père, personnage que vous n'avez jamais connu.
C'est-à-dire que je suis parti sur ce que j'ai pu récupérer comme information sur sa vie et j'ai extrapolé sur un personnage qui lui ressemblait et qui a traversé donc l'époque de 1877 jusqu'à 1927, l'âge où il est décédé. Ma mère avait 6 ans et donc je ne l'ai pas connu. Et j'ai voulu lui redonner une place au sein de la famille. Et donc, j'ai effectué le parcours de sa vie. J'ai été dans les villes où lui est allé, donc notamment en Normandie, puisqu'il est né là-bas, à Paris, en Lorraine, en Tunisie, où il a fait les Baddaf en Tunisie. Et puis après, il a fait la guerre de 14 dans un fort de Lorraine. Puis il est allé 4 ans en déportation en Allemagne. Je suis allé en Allemagne dans les camps. Et pour terminer en Lorraine, à Toul et notamment à Nancy, où son épouse, ma grand-mère, était institutrice, directrice d'école à Dommartin-lès-Toul, mon village de naissance.
Et puis actuellement, Philippe Zimmermann, vous habitez dans le sud de la France, dans le département du Gard, entre le village de Sommières et Amorgos, l'île où a été tourné Le Grand Bleu, voilà, le film de Luc Besson.
Le film de Luc Besson. Alors effectivement, j'habitais Avignon et je me suis rapproché de ma fille Julie et de mes petits-enfants. Je vous parle de Julie parce que j'ai trois filles, mais on va parler plus tard de Julie dans le roman. Et mes petits-enfants donc habitent en Sommières. Je passe une partie de l'année à Sommières et une partie de l'année, les belles périodes, c'est-à-dire d'avril à octobre, je suis sur l'île d'Amorgos où effectivement a été tourné Le Grand Bleu de Luc Besson.
Merci pour ces précisions biographiques. Alors, plantons le décor du roman de Philippe Zimmermann, Le Porteur de Lanterne, aux éditions de l'Harmattan. L'action commence dans une France post-1870, c'est-à-dire qu'il faut imaginer la guerre de 70, la défaite, l'épisode de la Commune. L'action commence en 1878, dans les Vosges, où nous faisons connaissance donc avec le héros qui s'appelle Valentin Lorrain, jeune homme donc 18 ans, qui est né dans une famille de bûcherons, famille où on ne pense qu'au travail, avec un père assez rude, on pourrait le penser même sans cœur. Et ce jeune homme a des désirs d'écriture. Il veut devenir écrivain alors que son père le voit plutôt accolé à la schlitte.
Alors voilà, c'est tout à fait ça. Valentin a perdu sa mère très jeune. Il est sous l'autorité de son père, qui est effectivement un père très très difficile, qui est bûcheron, qui connaît que la tâche, le bûcheronnage. Et suite à un accident de Valentin, un accident de schlitte, le schlitte c'est un traîneau sur lequel les Vosgiens descendaient le bois du haut de la montagne dans la plaine. Donc c'était très très dangereux. À cette époque-là, il y avait beaucoup d'accidents. Donc Valentin a un accident et il est alité. Le docteur vient, lui dit qu'il ne pourra jamais être bûcheron. Et ça, quelque part, ça convient à Valentin parce que ce n'était pas du tout sa destinée. Il ne sait pas encore, mais il avait des velléités d'écrire, qui est un peu compliqué pour un bûcheron, quoique il y avait des bûcherons sans doute qui écrivaient, mais il décide, il fait des très belles rencontres, notamment Effie, qui est un personnage féminin qui va le pousser à quitter sa Vosges natale pour aller retrouver l'ami d'enfance de sa mère qui s'appelle Clémence, et Clémence habite Semur-en-Auxois. Donc, il va être poussé à aller sur Semur-en-Auxois. Il va lui arriver beaucoup, beaucoup d'aventures, des bonnes et des moins bonnes. Et à Semur-en-Auxois, sa vie va changer. Voilà.
En fait, c'est l'ailleurs, c'est partir. Alors, c'est une fuite, mais ce n'est pas la fuite devant un danger. C'est une fuite courageuse pour construire son avenir tel que lui le désire. Parce que finalement, il y a une volonté de lutter contre l'autorité paternelle. D'ailleurs, il dit qu'il ne veut pas être bagnard, il choisit la liberté.
Alors, vagabond plutôt que bagnard, parce que son frère lui dit « si tu t'en vas sur la route, tu seras un vagabond ». Et lui, il lui répond « plutôt vagabond que bagnard », dans le bagne effectivement de l'entreprise de son père et de ses frères. Et donc, la fuite, effectivement, c'est un thème qui me tient à cœur, parce que la fuite n'est pas synonyme de recul devant l'obstacle, de peur, mais elle est plutôt, pour moi, synonyme de curiosité, de découverte, de s'affranchir d'une certaine sécurité, même si des fois elle est douloureuse, mais d'aller vers l'autre, l'avenir et justement d'essayer de découvrir des choses. Donc il va payer cher cette liberté, mais elle va lui apporter aussi quelque chose. Voilà l'enjeu dans le voyage initiatique. C'est une sorte effectivement de voyage initiatique que Valentin fait au travers de la France, au travers des rencontres, qui va l'emmener petit à petit à découvrir sa vérité.
Alors, en fait, on a l'impression qu'il fuit un monde viril, un monde d'hommes, pour aller plutôt vers un monde féminin.
Il est très, très sensible au féminin. Il se rapproche, c'est un romantique, quelque part, au fond de lui. Effectivement, il fuit le côté patriarcal, le côté machiste de ces hommes qui boivent, qui abattent des arbres, qui racontent des histoires.
Qui sont des brutes,
un peu. Oui, il les appelle les brutes de toute façon. Et il rencontre un ami dans son village d'enfance qui s'appelle Nicolas.
Ah, alors là, vous pourriez nous en parler de Nicolas. Parce que voilà, avant d'enregistrer cette émission, en bavardant avec Philippe Zimmermann, il faut reconnaître que dans Le Porteur de Lanterne, les figures féminines sont très présentes. Il n'y a pas vraiment, hormis bien sûr l'écrivain Stevenson, mais on va y venir, il n'y a pas vraiment de figure masculine très forte. Il y a Nicolas qui est une sorte de paria, de rebelle.
Le maudit.
Un maudit, effectivement, dans ce village vosgien. Il faut imaginer tout de même un village dans la France de 1878, tout de même. Hein, il faut replacer le contexte historique à son importance.
Ils ont encore les Prussiens aux portes.
Exact.
Voilà. Et les chiens des Prussiens qui se promènent la nuit, il y a encore cette crainte de l'ennemi qui est toute proche. Et effectivement, il faut bien se mettre dans la peau de ces gens et de ce jeune Valentin. Et donc, effectivement, la brutalité, l'image masculine pour lui, voilà, il est plus attiré par le féminin, par la belle et fille, par
la sensibilité, le cœur, une âme
et
délicate.
Et Nicolas, donc Nicolas, qui a perdu son ami, qui s'appelle Paul, sur un champ de bataille en 70. C'était plus que son ami, d'ailleurs, c'était l'amour de sa vie, comme il le dit. Et Valentin... il se cherche aussi, il a 17 ans à cette époque-là, parce que le début de l'histoire commence en 77, donc il a 17 ans, et il y a un geste de la part de Nicolas qui est attiré par ce Valentin, et Valentin est perturbé, il n'est pas effrayé, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui lui tombent dessus, il vient d'avoir son accident, il rencontre une jeune personne qui s'appelle Effie, qui va se révéler être un personnage très important pour sa vie, et puis le monde change autour de lui, ses frères commencent à changer, bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais il se passe des événements qui le perturbe. Le geste de Nicolas le perturbe aussi. Bon, et Nicolas, recule.
Mais Nicolas, il a choisi une voie. Un temps, il a côtoyé les anarchistes. On suppose qu'il a pu aider les anarchistes à commettre des attentats. Mais Nicolas, il choisit une autre voie qui est celle de la révolte. Alors, il est homosexuel. Paul, donc, qu'il a aimé, qui était de 10 ans son aîné, rappelle aussi un couple littéraire.
Oui.
Auquel vous avez songé, forcément.
Oui, tout à fait. Bah, Paul, c'est bien sûr Rimbaud et Verlaine. Donc, effectivement, au départ, Nicolas devait s'appeler... on devait le surnommer Verlaine, mais j'ai trouvé que c'était un peu gros. Et j'ai préféré que mes lecteurs et mes lectrices découvrent et à la limite fassent le pont si ça les intéresse ou non.
On va nous marquer une première pause musicale. Je rappelle que c'est Philippe Zimmermann qui est notre invité, le porteur de lanterne. Et on se retrouve avec le public du Cercle des auteurs bourguignons juste après la pause musicale.
Sommeil, c'était peut-être un mauvais rêve, mais je voudrais y rester. Y'a comme un truc pas clair, mais pas de quoi s'emballer. On sait tous que j'ai bien mieux à faire. Je vais le vivre, ça m'évite les problèmes. J'ai pas envie, c'est toujours les mêmes. Je vais le vivre, plus quelque chose me dit. Envie, c'est toujours les mêmes. Je vais le vivre,
je sais plus quoi penser. Je préfère les mystères, bien trop solitaire. Je vais le faire, ça m'évite les problèmes. J'ai pas envie, c'est toujours les mêmes. Je vais le faire, plus quelque chose me dit. Qu'on pense, chute libre, laisse-moi le temps, juste avant que l'on force, force, force le silence, pour cacher tout ce qu'on pense, chute libre, laisse-moi le temps, juste avant que l'on force, force, force le silence, pour cacher tout ce qu'on pense, chute libre, laisse-moi le temps, à moins que l'on force, force, force le silence, pour cacher tout ce qu'on pense, chute libre.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Retour dans votre émission littéraire avec Philippe Zimmermann qui signe son 8e roman aux éditions de l'Harmattan et qui a pour titre Le porteur de lanterne. Je rappelle que cette émission a été enregistrée le 28 janvier dernier dans le cadre du Cercle des auteurs bourguignons. Donc nous avons enregistré cette émission en plus, Philippe Zimmermann, dans un lieu de la bibliothèque municipale de Semur en Aussois, non seulement que vous connaissez bien, mais qui vous sied bien également. Vous pouvez nous en parler un peu de cet endroit où nous sommes en ce moment ?
Alors ce lieu pour moi est absolument magique.
Ce lieu,
ne nous trompons pas, ce lieu de Semur en Aussois est absolument magique. J'ai eu la chance exceptionnelle de pouvoir le découvrir grâce à Virginie et à...
Alors Virginie Ravarotto. Hein?
Ravarotto, exactement. Merci de m'aider. Et je lui avais fait une demande un petit peu particulière. Donc c'est un fonds qui, m'a-t-elle expliqué, c'est une pièce qui se visite pas, qui est interdite au public, qui se visite bien sûr sur aux journées du patrimoine, qui se visite aussi éventuellement sur rendez-vous. Et moi, je n'avais pas pris rendez-vous, j'étais venu comme ça. Et j'ai expliqué mon projet, mon histoire, et Virginie est tombée sous le charme, si je peux me permettre, de mon projet. Et elle m'a autorisé, m'a conduit à travers les couloirs dans le fond carré, et je lui ai demandé la permission de me laisser seul, en lui promettant bien sûr d'être très sage et de ne pas déranger tous ces livres qui reposaient en paix. Et donc j'ai eu droit pendant une bonne demi-heure à rester, et pour moi ça a été quelque chose de fabuleux, parce que j'ai gardé en mémoire des sensations, et ces sensations, je pense, les avoir retransmis dans Valentin, qui arrive pour la première fois à la bibliothèque de Semur. Donc nous sommes en 1878, et le fond carré existait déjà, c'était tout neuf, et il a pu voir ce qu'on voit à aujourd'hui, donc ça déjà c'est quelque chose d'extraordinaire. Il a pu voir la map monde, jouer avec la map, enfin la caresser, pas jouer, la caresser la map monde, où il s'est vu aventurier, il s'est vu... Il est venu, et Virginie, qui s'appelle dans le roman Virgile, puisqu'à cette époque, le responsable de la bibliothèque ne pouvait pas être une femme, donc j'ai dû prendre le prénom de Virgile pour accueillir Valentin. Et Valentin, Virgile fait découvrir à Valentin Margaret Oliphant, dont on va parler sans doute, qui est une écrivaine écossaise et qui a écrit un roman sur ce mur, enfin une histoire qui se passe à ce mur, qui s'appelle La Ville Enchantée, qui a été écrite en 1874, corrigée en 1878, 77, 78, et publiée en Écosse en 1879. Ce roman a été traduit en français et a été édité en 1901, avec une préface quand même très illustre de Maurice Barrès. Donc voilà un point de départ aussi et le croisement qui fait que Valentin est sur la voie pour éventuellement côtoyer le monde de l'écriture.
Alors, je rappelle donc que nous avons notre jeune héros de 18 ans, Valentin, qui quitte son village des Vosges, qui doit se rendre à ce mur en Aussois dans le but d'y retrouver sa marraine, Clémence, la meilleure amie de sa défunte mère, qui réside donc dans cette belle cité de ce mur en Aussois. On ne vous raconte pas toutes les aventures, les difficultés auxquelles doit faire face Valentin pour parcourir. Alors, c'est qu'il a un objet pour se déplacer tout à fait original. Il n'est pas à pied, il n'est pas à dos de mulet, il n'a pas de cheval, mais il a quelque chose, un engin terriblement original en 1878.
Il a un vélocipède qu'il appelle Santa Maria. Et donc, il traverse cette France. Alors, l'histoire du vélocipède, elle est construite autour. On lui a fait spécialement dans son village des Vosges. C'est son cadeau pour partir. C'est le mari des filles qui lui a fait ce vélocipède. Mais effectivement, il va traverser la France avec ce vélocipède. Et vous verrez un petit peu plus tard pourquoi j'ai voulu qu'il soit accompagné de quelqu'un, parce que c'est un personnage pour lui, Santa Maria. Il se retrouve seul à des moments, donc il parle avec son vélocipède. Et ça va faire écho à Stevenson qui traverse bien sûr les Cévennes avec son âne Modestine. Donc l'un à Modestine, l'autre à Santa Maria. Voilà un petit peu ce parallèle.
Alors, Valentin arrive à ce mur en Aussois, il est accompagné d'un homme admirable. Voilà une belle figure masculine, un colporteur qui lui aussi parcourt alors avec son chien et sa carriole la France. Donc il est aussi écrivain public, il lit des histoires, c'est un érudit, il vend vraisemblablement des livres, peut-être des livres de la Bibliothèque Bleue.
Il a vendu un livre au Sieur Carré, et Sieur Carré qui est de ce mur en Aussois était un client à lui. Donc, quand Valentin lui dit qu'il doit aller à ce mur, le Sieur Carré est pas loin de Châtillon. Et donc, il dit, je peux pousser, j'y vais de temps en temps à ce mur, parce que j'ai un très très bon client qui s'appelle Monsieur Carré. Il est mort depuis peu, mais sa veuve sans doute encore des livres à relier, et j'aimerais bien la voir pour lui dire bonjour. Donc, effectivement, Monsieur Carré n'est plus là. Mais et c'est un prétexte parce que Vitus est... Alors, notre colporteur s'appelle Vitus Bering. Non, Vitus, lui, est Bering, son
Vitus
chien.
Vitus Castellio, et le chien, c'est Bering.
Voilà, exactement. Mais simplement, la petite anecdote, c'est que Vitus Bering est quand même un explorateur, et son nom a été donné au détroit de Bering, donc qui sépare la Russie avec les États-Unis. Donc pourquoi j'ai choisi ce prénom ? Parce que Vitus, c'est lui qui va emmener, alors comme vous dites, c'est une très 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 belle figure masculine, mais masculine dans le sens enseignement, accompagnement, et pas autoritaire, au contraire, il écoute, il entend, il comprend, et il emmène, il est à Alésia, et il y a un moment donné, il voit vers la statue de Vercingétorix, qui est là depuis peu, puisqu'elle vient d'être posée, et donc il y a effectivement, il reparle de César, il repart de Vercingétorix, et il y a un moment donné, Valentin a peur que Vitus le laisse là, et lui a dit, mais je pensais que vous alliez m'emmener dans l'autre monde, de l'autre côté, vers ce mur en Aussois. C'est pour ça que j'ai choisi ce personnage de Vitus Bering. Et l'entrée, donc, avant d'arriver à ce mur, Vitus lui dit, non mais regarde, je vais aller avec toi, regarde, elles sont devant les tours de ce mur en Aussois. Et donc, nous arrivons, le chapitre, la troisième partie du livre, dans le chapitre suivant, nous arrivons à ce mur en auxois, nous arrivons au bord de l'Armançon, où une autre chose de ce mur en auxois qui m'a beaucoup frappé, on parlait du fond carré, dans le musée, vous avez un tableau qui est absolument extraordinaire pour moi, qui s'appelle l'inondation de 1830-35, l'inondation de Bouault, qui a été peinte par Bouault. Et ce tableau m'a parlé. Je pense que avec nos iPhones ou nos téléphones, on aurait fait une moins bonne photo. Si vous regardez ce tableau, il y a une vie extraordinaire derrière. On sent toute cette vie, toute cette vie que je dirais figée, mais elle est figée par la peinture, mais elle vit énormément. On voit ce pont qui est à moitié détruit par les inondations et c'est le départ du chapitre où effectivement on va avoir des personnages qui vont arriver et notre entrée se fait là à ce mur.
Il y a le cantonnier chef de ce mur, Mangetère, qui est aussi le fossoyeur. Voilà. Mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que notre jeune Valentin arrive à ce mur en auxois à un moment bien particulier où la fête n'est pas loin.
Alors, un moment très particulier dans ce mur, un moment, je dirais, historique, parce que la gare vient d'ouvrir il y a 2 ans. Donc, la gare de Semur-en-Auxois a été ouverte en 1876. Elle permet d'aller, comme on dit, à Paname, en quelques heures maintenant, ou à Marseille. C'est-à-dire que voilà, ce mur en auxois est complètement sorti des voies de diligence et autres. On peut aller à Paname. Donc ça, c'est la première chose intéressante. La deuxième chose intéressante aussi, c'est qu'à cette époque, 78, c'est l'exposition universelle à Paris. Donc, il est facile d'imaginer ces gens de ce mur qui prennent le train pour aller directement à Paris, à l'exposition universelle.
Et il est même question d'un semurois qui a exposé un récepteur solaire.
Alors je pense que je ne vous apprends rien, c'est Mouchot effectivement qui a exposé, et il faut savoir que Mouchot a eu la médaille d'or donc à l'exposition universelle de 1878, justement à cette époque. Et donc c'est pour ça que ce mur était très intéressant à travailler, parce qu'il y a une foule d'anecdotes, une foule de croisements avec la grande histoire et en même temps la petite histoire qui, pour un auteur, je veux dire, qui travaille le roman, les personnages, je dirais les personnages vivent quasiment tout seuls, on n'a pas besoin de beaucoup les agiter, ils se promènent tout seuls et ils vivent accompagnés de tous ces magnifiques personnages qui ont côtoyé ce mur, qui sont nés à ce mur ou décédés à ce mur ou qui ont participé à faire connaître ce mur.
Alors, on va marquer une nouvelle pause musicale. Juste après, nous parlerons de ces dames de ce mur en auxois. Donc, c'est les retrouvailles entre, effectivement, le jeune Valentin et sa marraine Clémence, qui est un personnage haut en couleur. On se retrouve juste après avec notre invité Philippe Zimmermann, donc, qui est l'auteur d'un roman paru aux éditions de l'Harmattan et qui a pour titre « Le porteur de lanterne ». Je rappelle que cette émission a été enregistrée en public à la bibliothèque municipale de Semur-en-Auxois dans le cadre du Cercle des auteurs bourguignons.
Quelques mots incertains prennent vie à la un doucement. Je commence une histoire. Nez à nez, corps à corps, tu m'attires et m'enivres. Ton sourire, quel plaisir, et mon cœur qui chavire. Au début, nous sommes pleins d'espoir. Viens, le chemin, il est long. Dans ma chanson, je te jure, tu joueras pas au con. Pas
le même toit, le même moi, nos vêtements sous le tas et le jeu de l'émoi, c'est l'amour et tous ces petits extras. Tes amis me dérangent, me cachent, me démangent, tu me saoules, petit ange, et même si tout s'arrange, méfie-toi, je pourrais t'effacer. Tiens, le chemin, il est long, dans ma chanson, je te jure, tu joueras pas au con. Les sentiments s'entassent, se fait la grimace sur la page, juste une place pour écrire une fin dérisoire. Viens, le chemin, il est long, dans ma chanson, je te jure, tu joueras pas au con.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Nous sommes toujours en public avec notre invité. Merci public. Philippe Zimmermann, auteur du Porteur de l'antenne. Alors vous parliez du cadre idéal, presque du pain béni, cette ville animée de ce mur en ossoie en 1878, au moment donc où Valentin y arrive et retrouve, après petite enquête, Clémence, qui est donc sa marraine. Clémence était la meilleure amie donc de la mère disparue de notre jeune héros. Et cette Clémence n'est pas n'importe qui, parce que ce sont des femmes à la fois qui s'adonnent au théâtre, à la lecture, et elles ont un passé de militantes féministes.
Oui, alors... Enfin, Clémence était à Paris, donc quelques années avant, et effectivement, elle est montée sur les barricades pendant la Commune. Elle a côtoyé des très belles figures. Elle a côtoyé notamment Louise Michel, que tout le monde connaît. Et c'était pas Louise Michel dont je voulais parler. Moi, je voulais essayer de mettre en lumière un autre personnage féminin qui s'appelle Nathalie Lemel, qui est la même puissance que Louise Michel, mais qu'on entend beaucoup moins parler, qui a un parcours absolument extraordinaire. Et donc Clémence a côtoyé avec Nathalie Lemel la Commune. Donc cette Commune est passée avec bien sûr des blessures, de nombreuses blessures.
Une répression féroce.
Une grosse répression, oui. Napoléon III est parti. Et donc, la Troisième République.
Thiers,
le début.
Qui mate.
Thiers, voilà, alors Thiers,
la Commune,
oui.
De Paris, le mur des fédérés.
Exactement.
Le temps des cerises.
Tout y passe. Alors, effectivement, on a une scène très, très importante. C'est la veille de la fête de la bague où, effectivement, à ce mur, Nicolas, la cloche de la collégiale de Notre-Dame sonne et accueille la procession au Lampion qui précède la soirée. Et le lendemain, il y aura la fête de la bague. Donc, on a ce défilé. Et... Clémence est dans la chambre de Valentin. Elle est venue lui rendre visite avec sa fille Garance et avec un horrible personnage qui s'appelle Georges. Il faut toujours un horrible personnage quelque part. Ça renforce un peu le côté sympathique des autres. Et c'est très excitant de travailler un personnage horrible. Ça permet de se déverser un petit peu. Tout ça pour dire que Clémence raconte en voyant passer les lampions l'union et les lampes et les flammes, les jongleurs et tout, le brouhaha de la rue qui se reflète dans le mur de la chambre de Valentin, elle se croit à la Commune à Paris, et elle raconte un épisode de la Commune, et donc effectivement elle est très enflammée, et sa fille qui a 18 ans aussi est aussi enflammée qu'elle, et aussi je dirais pas féministe, mais voilà, elle sait ce qu'elle veut, et donc je dirais que elle séduit sans le vouloir, ou elle se séduise avec Valentin. Voilà, je pense que.
Alors, c'est très important parce que ces femmes vont guider Valentin vers ses aspirations d'écrivain. Clémence est redoutable.
Clémence ne
elle
va pas le louper.
Elle montre la voie du style. Elle est autoritaire. C'est une femme de caractère.
Clémence a une mission. Elle a fait une promesse à sa mère, Anna, la mère de Valentin, avant de décéder, dans une des lettres qui sont citées dans le roman. Elle lui fait la promesse de veiller et d'aider à Valentin, sur Valentin. Et donc, elle prend son rôle très à cœur, de marraine, je dirais presque de mère de substitution, mais ça va plus loin que ça, dans le sens où elle sera son mentor, elle veut lui apprendre, elle sait qu'il a la capacité d'écrire, mais que Valentin est un peu poète, avec beaucoup de lyrisme, se laisse aller à la facilité, et, comme on pourrait dire à l'heure actuelle, elle ne le loupe pas. Elle ne le loupe pas parce qu'elle veut absolument qu'il devienne...
Oui, pardonnez-moi Philippe,
je vous en prie.
Clémence dit, le style Valentin, le style allège, supprime, incarne. Tu as de bonnes idées, mais c'est lent, bien trop lent. On s'ennuie, mais il faut que ça bouge, que l'on dévore ton livre, que l'on soit captivé du nerf. C'est pas comme ça que tu vas conquérir le cœur de ton lecteur.
Voilà, donc j'essaye...
Elle ne le ménage pas, hein.
Non. Non, mais je pense que c'est quand même extraordinaire. Il a eu ce professeur, quelque part, cette femme avec un fort tempérament, mais aussi avec une volonté extraordinaire qui va le pousser, justement, à aller de l'avant et à suivre son chemin.
Elles ont aussi leur idée derrière la tête, hein, parce qu'elles n'oublient pas leur combat, j'allais dire, socialo-féministe. On peut parler
de
pré-socialisme tout de même.
Oui.
Clémence dit à Valentin, quand tu seras écrivain, réveille aussi les espoirs massacrés de notre commune.
Voilà, tout à fait. C'est que, oui, elle a une idée derrière la tête. Effectivement, elle sait que Valentin sera écrivain. Elle l'a senti depuis le départ. Et elle le pousse à écrire, effectivement. Elle le pousse aussi à relater cette commune qui a été quand même un bain de sang, qui a été écrasée. Et elle fait tout pour que on lève le voile et que ce soit un témoin quelque part, que cette parole de Clémence qui a vécu ces choses-là puisse se transmettre au travers des écrits de Valentin.
Alors, Philippe Zimmermann a ce mur. Valentin est, bon, on peut dire, reçoit de l'affection, de l'intérêt. Il est encadré.
Même plus que de l'affection.
Oui, avec Garance, la fille de Clémence, effectivement, il y a une passion. Parce que c'est un roman d'apprentissage, c'est un roman d'aventure, c'est aussi un roman historique. Vous avez, je trouve, fort bien enchevêtré les différents éléments, ce qui donne un roman avec un ancrage local pour les habitants de ce mur en Aussois, mais on y trouve tout finalement. Il y a de la romance, il y a de la révolte, il y a de l'aventure, il y a des brigands, il y a tout. Tous les ingrédients que l'on retrouve finalement aussi, pardonnez-moi Philippe, je vous redonne la parole, tous les ingrédients que l'on retrouve dans la littérature romanesque du 19e siècle.
Oui, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de faire un roman actuel, contemporain, avec les idées de l'époque. Donc, il y a du romantisme, effectivement, puisqu'on était en pleine époque quand même du romantisme, mais avec aussi une écriture, je dirais, plus actuelle. Et c'est toute la difficulté, c'est-à-dire d'aller piocher dans les écrivains, je veux dire, de l'époque, dans les écrits de l'époque et d'essayer de presque de traduire. Mais lorsqu'on a quand même d'excellentes écrivaines, ne l'oublions pas, d'excellents écrivains au 19e siècle, donc c'est quand même assez simple de pouvoir tisser comme ça, et très jouissif de tisser des fils et de tirer sur les plots parce que on arrive à dévider des vies, des histoires, des coïncidences, et ça pour un auteur qui écrit des romans, c'est extraordinaire, quoi.
Alors Philippe Zimmermann, on marque un dernier intermède musical et ensuite on accompagne Valentin dans les Cévennes, qui part à la rencontre d'un écrivain dont il a entendu parler à Semur en Auxois par cette Écossaise, hein, Miss Oliphant, qui le guide un peu vers lui. C'est un peu le salut intellectuel et littéraire de Valentin. Je rappelle que nous sommes toujours en public et on se retrouve juste après.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Je rappelle que l'émission que vous écoutez en cette fin de matinée sur Radio n'a été enregistrée le 28 janvier dernier à la bibliothèque municipale de Semur en Auxois, dans le cadre du premier rendez-vous du Cercle des auteurs bourguignons. Et nous avons un public curieux et fervent, et ça fait bien plaisir. Merci à vous. Revenons avec notre invité, Philippe Zimmermann, auteur du Porteur de lanterne, donc disponible aux éditions de, aux éditions de l'Armançon, Lapsus, aux éditions de l'Armatan, pardon. Je salue d'ailleurs Gérard Gauthier, puisque j'ai parlé des éditions de l'Armançon, qui est dans le public et nous nous en réjouissons. Il est beaucoup question, effectivement, de vocation littéraire. Première étape, ce mur en Auxois où Valentin retrouve sa marraine, où on ne le ménage pas sur les conseils et recommandations littéraires qu'on lui donne. Et puis vous avez, Philippe Zimmermann, évoqué cette rencontre où effectivement Valentin rencontre un écrivain en chair et en os. C'est ça aussi qui est merveilleux, c'est de rencontrer dans les écoles aussi, parfois quand les élèves peuvent rencontrer un écrivain en chair et en os. Ça donne, j'allais dire, ça donne chair au livre, car il y a un homme derrière, ou une femme derrière un roman.
Alors, la première rencontre d'un écrivain, pour lui, c'est une écrivaine. Et il fait la réflexion, une écrivaine, une femme écrivain, puisque lui, il vient d'un monde, les Vosges, un monde de brutes, un monde d'hommes, où, pour eux, un écrivain, c'est comme un forgeron. Et il se pose la question, mais peut-il exister une femme forgeron ou forgeronne ? Et donc, c'est sa première découverte, c'est que Margaret Oliphant est une femme écrivaine.
Alors, la Philippe Zimmermann, il faut que nous expliquions à notre public et à nos auditrices et auditeurs pour quelles raisons Valentin quitte à nouveau ce mur pour aller dans le sud de la France et pas n'importe où. Il doit suivre la trace de quelqu'un. Alors, et ce quelqu'un, vous le connaissez bien, vous l'avez énormément lu. Et c'est aussi un écrivain sans doute immensément connu en Grande-Bretagne, en France également, mais sur des œuvres bien spécifiques, un peu restrictives même.
Donc il va rencontrer Robert Louis Stevenson. Stevenson, c'est celui qui a écrit « L'île au trésor », « Dr. Jekyll et Mr. Hyde ». Je pense que pour un certain nombre de personnes qui connaissent ces deux romans, c'est un peu les deux romans de Robert Louis Stevenson. Mais derrière ça, il y a un écrivain reconnu, un énorme travail, plusieurs dizaines de romans, des nouvelles, des essais, des articles. En fait, c'était un écrivain de génie, qui est né en 1850, qui est mort en 1894, qui est contemporain de Guy de Maupassant, qui est né l'année de la mort de Balzac. Et donc, ce Stevenson a écrit énormément de romans. Et il avait un style tout à fait particulier. Quand on lit « L'île au trésor », je suis, moi, à chaque fois stupéfait de la façon dont il décrit, sa technique d'écriture est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et il a écrit une nouvelle, c'est pour ça que le roman s'appelle « Le porteur de lanterne ». Stevenson a écrit une nouvelle qui s'appelle « Les porteurs de lanterne ». Donc ce titre fait hommage à Stevenson, c'est un livre hommage de toute façon qui lui est consacré. Je parle quand même beaucoup de Stevenson dans le livre, c'est-à-dire que c'est un dialogue entre, quelque part, des fois, enfin Stevenson, comme vous Yannick, relance Valentin sur son histoire. Donc on a un peu cet échange aussi, de temps en temps, où Stevenson relance Valentin, lui donne des conseils, lui explique un peu la vie.
Il a 10 ans de plus que
il
Valentin.
Il a 10 ans, voilà, il a 28 ans, Stevenson, à cette époque, auteur de textes, je ne vais pas dire mineurs, mais de textes peu connus. Et il va partir l'année d'après, parce qu'il est là pour calmer un chagrin d'amour. Et il va partir début 79 aux États-Unis, en Amérique, retrouver Fanny Osborne, qui est son amour et qui est là-bas parce qu'elle est en train de divorcer avec son mari. Et donc, ils vont se marier après. Et quelques années plus tard, en 1884, va paraître L'île au trésor. Et je pense que c'est intime et c'est personnel, ça n'engage que moi. Je pense que Fanny Osborne a, comme l'a fait Clémence, a... légitimer Stevenson comme un grand écrivain. Ce qu'il doutait, quand on voit sa littérature, sa biographie, ses lettres qu'il écrivait, il doutait de sa capacité d'écrire des romans. Serais-je un jour capable d'écrire un roman ? Et quelques années après le mariage avec Fanny Osborne, il va écrire L'île au trésor, qui a été un véritable succès, puis effectivement Dr. Jekyll et Mr. Hyde.
Mais Philippe Zimmermann, quelque part, l'écrivain écossais Robert Louis Stevenson a aussi un peu fui son milieu familial. notamment la religion calviniste de son père. Il a été aussi, il a mené une vie de débauche quand il était jeune homme. D'ailleurs, il meurt à 44 ans. Il y a une scène magnifique au moment donc où Valentin et Stevenson discutent. Alors je sais plus s'ils sont à l'auberge ou s'ils font du camping, parce que c'est un peu cela finalement. Hein.
Ils couchent à la belle étoile, oui.
Valentin avec son vélocipède et Stevenson avec son ânesse.
Molestine
qui écoute d'ailleurs les conversations, hein, elle est un témoin privilégié. Mais il faut imaginer la scène où justement à un moment, Stevenson veut faire boire du Mariani. Et c'est drôle parce qu'il lui écrit « Il faut être dans un état second pour écrire ». Voici ce que Stevenson dit à Valentin.
Ah mais je confirme.
Justement, cela demande un éclairage de votre part,
oui,
Philippe
oui.
Zimmermann.
Alors, écoutez, pour moi, l'écriture reste un mystère. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Il y a quelque chose de sûr, plus loin, bien plus loin, naturel. Pourquoi je fais cette remarque ? C'est parce que on est quand même dans un état... On est aspiré par ces personnages. Moi, j'ai été très, très aspiré par Robert Louis Stevenson. J'avais l'impression qu'il guidait ma main par ses idées, par ses écrits. Je retrouvais des coïncidences. Alors, chacun y voit ce qu'il veut. Je veux dire, ce n'est pas le propos. Je pense que l'écriture a quelque chose de magique. Et chaque fois que je rentre dans un roman, que je m'adresse soit d'emblée à mon grand-père ou là à Stevenson, il y a quelque chose qui me porte et qui m'aide justement comme boire du Mariani. Le Mariani n'était ni plus ni moins qu'une décoction de feuilles de coca. Les débuts de la cocaïne et qui le mettait dans un état donc moi j'ai pas écrit sous cocaïne mais j'ai écrit effectivement dans un état d'inspiration
et Stevenson dit à Valentin, on a le sentiment que pour être écrivain il faut être élu. Stevenson dit à Valentin, être écrivain n'est pas que passion, envie et instant magique. Il ne suffit pas de se conformer au rituel, encore faut-il être appelé.
Oui, et c'est là toute la magie, moi je pense, de cet écrivain. Est-ce qu'il essaye de transmettre à Valentin, parce que Valentin a fait son apprentissage avec Clémence, mais Clémence ne lui a pas appris. Elle lui a appris énormément de choses, mais elle ne lui a pas appris effectivement que l'écriture, comme vous le dites, comme vous le relevez, il y a quelque chose de, je le répète, de un peu surnaturel, de mystique, d'étrange, qui fait que tout d'un coup, votre roman tient debout. Et ce n'est pas que de la technique, ce n'est pas que de chasser des fautes, ce n'est pas que d'aligner des personnages. Il y a un moment donné, il faut que vos personnages de papier deviennent effectivement des personnages en chair et en os.
Je rappelle, parce que nous sommes à la fin de notre échange, Philippe Zimmermann, je rappelle le titre de votre roman « Le porteur de lanterne » aux éditions de L'Harmattan. Donc « Les aventures d'un jeune Vosgien épris de littérature et de liberté » donc, qui se rend dans un premier temps à Semur en Auxois, où on le conditionne, où on l'encourage et qui ensuite repart dans les Cévennes et rencontre un écrivain qui peut-être en 1878 n'est pas encore le grand écrivain écossais que l'on connaît aujourd'hui. En tout cas, je vous l'ai dit, c'est plein de romance, c'est plein d'aventures, de violence aussi, mais de tendresse, d'engagement militant, féministe. Et puis, c'est un roman qui nous tient en haleine et qui effectivement ressuscite les fêtes de la bague, notamment cet épisode amusant où le maire de Semur en Auxois dénonce publiquement les infâmes. Il suppose que ce sont des habitants de Montbard, la rivale, qui sont venus mettre des L sur les affiches fêtes de la bague, donnant fête de la blague. En tout cas, c'est pas de la blague, c'est le porteur de Lanterne, le roman de Philippe Zimmermann. Je remercie notre public. Et je Merci, cher public. Et je remercie Virginie Ravarotto et Cyril Lefebvre de leur confiance et de nous avoir permis d'enregistrer cette émission dans le cadre du premier cercle des auteurs bourguignons qui reviendra le 22 avril prochain. Voilà, je remercie les auditrices et auditeurs. Prochain rendez-vous samedi prochain, toujours à 11h sur Radion. Et puis, l'émission est disponible en podcast sur yannickpetit.fr. Excellente congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir et à samedi prochain.